Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui pour la deuxième interview Pierre Sorel. Bonjour Pierre.
Bonjour Myriam.
Donc Pierre, président d'Ibana. Évidemment, on a parlé précédemment dans la première interview d'Antoine Gazangel qui est aussi associé Ibana et Céline Sarga-Le Breton, évidemment, directrice générale et associée Ibana. Alors, on a parlé de plein de choses, de ce qui vous différencie effectivement sûrement de certains autres promoteurs, mais il y a de l'actu, j'ai cru comprendre, sur les réseaux. Le campus, parlez-nous-en, on est
tout à fait. Le campus ESIEA 2025, c'est un projet qui a mis 4 ans quand même hein, à être formalisé. Pourquoi si long? D'abord, les enjeux sont énormes. On est dans l'agro cité Gagarine-Truyot, donc Carmen Santana, qui est l'urbaniste. Donc avec des enjeux environnementaux, d'agriculture urbaine qui sont essentiels et qu'il ne fallait pas trahir. Une réflexion aussi sur la réversibilité, sur la filière sèche. Et donc, il fallait à la fois concilier, je dirais, évidemment, l'évolution naturelle des nouvelles normes environnementales, mais aller plus loin encore. Et tout ça dans une programmation complexe, dans laquelle le SIEA, depuis des années, cherchait un site à la mesure de ses ambitions, mais n'arrivait pas à formaliser son programme. N'arrivait pas à finaliser son financement. Et devait trouver des partenaires, donc architectes, bureaux d'études et promotion, et la ville d'Ivry, qui a été remarquable sur le sujet, pour défendre justement la pertinence du site. Donc l'ensemble de ces partenaires...
Donc qu'est-ce qui a fait que justement ça a fait sens et ça a fait projet? Parce que là, quand on entend les premiers mots de ce que vous évoquez, on a l'impression que les feux étaient rouges et pas verts. Donc qu'est-ce qui fait que ça a fait... ce programme est né, que cette équipe elle est née et que ça a fait sens?
Il y a quelquefois dans des projets comme ça, une alchimie humaine absolument extraordinaire. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment donné... convergent vers un but unique et non pas tirent d'un côté ou de l'autre. Et donc, c'est vrai que ce qui a fait la force, en fait, de ce projet, c'est des élus qui avaient envie, effectivement, d'avoir cette école à cet endroit-là, un aménageur réceptif, le PA Orsa, GPA, qui était effectivement réceptif à ce projet, une urbaniste que ça intéressait, des architectes, Xavier Gonzalez et Frédéric Lebar, qui ont su comprendre en fait les enjeux en matière de programmation et de développement, et une école qui nous a écoutés et qui a dialogué avec nous pour arriver à faire ce projet absolument exceptionnel. Un projet de 2000 étudiants dans lequel ils ont même su intégrer les questions, par exemple, d'agriculture urbaine, en disant, finalement, il y a une serre en toiture, ça nous intéresse, on va bâtir un projet de recherche autour de l'agriculture urbaine avec AgroParisTech. Donc, ça veut dire que, quelque part, on
ça
rentre...
Ça a leur donné, peu du grain à moudre sur leur programmation étudiante, non pas sur la programmation de l'espace.
Hein. Exactement, on est rentré dans une sorte de cercle vertueux, dans lequel, finalement, chacun s'est pris au jeu et est allé implémenter le dispositif pour refaire un projet qui, à mon sens, va être extraordinaire au final. Et qui contribuera non seulement au rayonnement
de l'école. Donc donnez-nous un peu les dates du planning, à quel moment l'inauguration va se faire hein.
Alors, l'inauguration, c'est un projet qu'on prépare pour la rentrée 2025, donc la rentrée de septembre 2025. Donc on met toute notre énergie, et l'entreprise en particulier, évidemment, pour les travaux qui sont maintenant lancés. On a fait la première pierre il n'y a pas longtemps. Et donc ça, c'est la première date, hein, capitale. Et on va avoir donc le transfert des étudiants qui va se faire peut-être en plusieurs étapes, on l'espère en tout cas pour la rentrée, peut-être effectivement échelonné jusqu'à la fin 2025. Avec l'idée pour le SIEA de se servir de ce nouveau campus pour pouvoir communiquer très fortement, non seulement sur leur projet de recherche, mais aussi sur une nouvelle façon d'enseigner. Aujourd'hui, dans les discussions...
Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'est cette école, parce que y a les auditeurs, les acronymes, on va essayer de revenir, juste l'explication de l'acronyme.
Alors, le SIEA, c'est une école des ingénieurs du numérique qui est spécialisée dans notamment tout ce qui est cybersécurité, pilotage de drones, etc.
C'est une école... Normalement, c'est pas le plancher des vaches avec l'agriculture. Hein.
Alors,
c'est
exactement,
loin.
C'est à des années-lumière, normalement, d'effectivement l'agriculture urbaine. Et c'est ça qui est remarquable, c'est qu'à un moment donné, une école qui soit si loin, en apparence en tout cas, de ce type de projet, tout d'un coup converge vers une préoccupation qui était celle du quartier. Et en réalité, c'est pas si loin que ça, parce qu'en fait, quand on fait de l'agriculture urbaine, aujourd'hui, notamment dans des serres, la difficulté, c'est de bien doser, en fait,
l'eau, les intrants,
et avoir le moins de pesticides possible, etc. Et donc, l'instrumentation, en fait, de ces espaces, avec, pour les plantes, la capacité de pouvoir détecter le plus rapidement possible si elle est en souffrance hydrique ou la façon dont elle doit effectivement évoluer, permet d'économiser du temps, donc de l'argent pour les gens qui vont, exploiter ces serres. L'objectif pour le SIEA, c'est de montrer que sur des serres urbaines de 300 mètres carrés, ce qui est tout petit, en fait, on puisse arriver à trouver un modèle économique viable. Et tout leur modèle économique, quand le SIEA est dans un modèle extrêmement vertueux dans lequel, quand ils développent un nouvel outil, ils le font en open source. C'est-à-dire que ils sont pas là en disant, bah tiens, j'ai fait un super produit que je
donc
vais vendre
200-300
euros.
Donc ça va profiter à l'ensemble des habitants
et même plus généralement au monde entier, puisqu'en fait, en chargeant
vous allez loin, hein.
Ah ben, je vous donne un exemple.
Entre la cité Gagarine à Ivry et le monde entier, il y a quand même pas.
Je vous donne un exemple, c'est sur les ruches. Vous savez que les ruches aujourd'hui, donc, elles souffrent énormément, l'agression des, des frelons, etc. Et en fait, ils ont développé un petit système que vous pouvez fabriquer vous-même pour quelques euros. Avec des composants ouverts. Là où, si vous l'achetez dans le commerce, ça vous coûte quelques centaines d'euros. Donc, pour un apiculteur, c'est important d'avoir quelque chose qui peut se fabriquer lui-même, simplement et pour pas cher.
Bien sûr.
Et qui permet de détecter, ça paraît un truc de dingue, le stress de la reine. Et donc, si la reine est stressée, c'est que la ruche est agressée. Et donc, l'apiculteur sait immédiatement qu'il y a un problème sur sa ruche.
D'accord.
Okay. Voilà le type d'outil qu'il développe.
Ouais.
On est très loin, effectivement, de la cybersécurité. Mais ça traduit quand même cet engagement de cette école dans une approche vertueuse d'un point de vue développement durable et responsabilité sociale et solidaire pour effectivement ces étudiants.
Donc, qu'est-ce qui a fait que vous êtes mis dans ce projet? Parce que vous êtes... Bon, c'est pas à la base un métier de promoteur, hein. Le fait de s'intéresser à une école, de construire une école, de construire le campus, on va dire que c'est pas dans les priorités de votre métier, la base.
Bah en fait, vous touchez du doigt là un sujet essentiel, qui est lié d'ailleurs, qui est renforcé par la crise, c'est que le métier de promoteur, il est en train d'être bouleversé. Si on se contentait de rester, je dirais, dans nos cases, entre guillemets, en se disant juste, bah voilà, moi je suis promoteur, j'achète un terrain, je vais chercher un architecte, on fait un projet, on le vend, et puis merci, au revoir. Bah finalement, ça c'était le métier d'avant, voilà.
Bien sûr.
Et donc, notre métier va être de plus en plus un métier justement tourné vers la compréhension de l'environnement, la contextualisation et la capacité à pouvoir projeter ou réfléchir ou trouver des solutions collectivement à des problématiques qui peuvent paraître sur le papier extrêmement complexes, mais finalement sur lesquelles, en travaillant tous autour de la table, on va arriver à trouver des solutions.
Ça veut dire que c'est du collectif, c'est de l'ensemble ?
Exactement. Et c'est du collectif dans lequel il faut savoir écouter les autres. En fait, trop longtemps, on était enfermés dans nos langages. Je dirais, trop souvent, on oppose finalement l'architecte et le promoteur, par exemple, ou le bureau d'études, parce que chacun a ses mots, son façon de parler, sa façon de travailler ou de voir. Et finalement, chacun reste coincé dans son costume. Et ben, cette crise, elle a le mérite, à un moment donné, de se dire, ben, quittons nos costumes traditionnels et essayons de comprendre les difficultés de notre société pour pouvoir y apporter des solutions plus pertinentes.
Bah, vous prêchez une convaincue, hein, parce que c'est pas faute d'avoir essayé à plusieurs reprises, justement, de casser ces barrières, de faire collectif et de regarder comment éviter que chacun reste dans son costume. Alors, ça, c'est des vœux pieux. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez différemment avec les architectes, vous travaillez différemment avec les bureaux d'études, que quelque part, les agences de communication qui travaillent avec vous s'insèrent d'une manière différente dans le projet, que la conception des logements est différente, comme vous l'avez évoqué lors de la première interview. Qu'est-ce qui fait que le collectif aujourd'hui a plus de sens et que les projets dans l'avenir doivent être dans ce sens-là?
C'est vrai que quand on a décidé à la création d'Ibana de faire des logements qui soient complètement dédiés à des personnes qui vont y habiter, une fois qu'on a dit ça, il fallait aussi se donner la peine de repenser complètement la façon d'élaborer un projet. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où effectivement l'architecte est peut-être un peu tout seul, on lui disait bah, tiens voilà ton projet et puis rendez-vous dans deux mois.
Le cahier des charges dans deux mois.
Voilà, hein, voilà le cahier des charges, le fameux cahier des charges, ce qui nous révolte.
Bien sûr.
On n'a pas de cahier des charges en fait, parce que chaque projet c'est différent, c'est son contexte. Donc ça peut paraître un peu déstabilisant, mais en réalité on laisse pas l'architecte tout seul. C'est-à-dire que très tôt on va demander à des bureaux d'études, un bureau d'études structure, par exemple, pour réfléchir avec nous sur la descente de charges, parce que c'est quand même idiot d'avoir trois planchers de reprise à des étages différents qui vont coûter un fric fou,
finalement, alors qu'on peut éviter, bien sûr.
Alors qu'on pourrait mettre cet argent ailleurs.
L'argent n'est pas dans le béton, l'argent vaut mieux le mettre dans les baies vitrées, dans les protections solaires, etc.
Exactement. Et donc, se mettre autour d'une table et réfléchir et s'écouter, en fait, par rapport à ça, c'est une des composantes essentielles d'un projet réussi. Et c'est vrai que cette capacité à dialoguer, il faut la remettre au centre du projet. On est trop, effectivement, dans des systèmes dans lesquels, à cause de la montée de l'industrialisation, on était dans des systèmes dans lesquels, effectivement, il n'y avait que des cahiers des charges, des règles, des cloisons.
Mais alors, attendez, Pierre, vous allez exactement à l'inverse du hors-site, de l'hyper-industrialisation, de la nécessité de faire du hors-site la panacée. Alors comment on fait ? Ouh là là ! C'est tellement différent !
C'est tellement différent, mais parce que là aussi, le hors-site n'est pas la solution universelle. Le hors-site peut être une réponse contextuelle par rapport à un projet, par rapport à un sujet. Mais je me défends d'avoir un système préétabli que je vais plaquer partout. Donc, peut-être qu'à un moment, le hors-site sera la réponse. Peut-être qu'à un moment donné, la construction bois sera la réponse. Peut-être que... Mais on parle de technique, là. Et en fait, la technique doit rester au service du projet.
Bon, bah c'est parfait. On va, je sais pas, je pense qu'on va inventer une nouvelle manière, en tout cas, pour les promoteurs de parler à leurs maîtres d'œuvre, ingénieurs, etc. Et surtout, je pense que ça vient souvent à l'oreille des élus, cette bonne manière de faire, n'est-ce pas ?
Exactement. En fait, un élu disait récemment, un promoteur, pour moi, un bon promoteur, un promoteur dont j'entends jamais parler, c'est-à-dire dans lesquels la copro ne vient jamais toquer à la porte de la mairie pour se plaindre.
Bon, ben là, je suis désolée, on entendra parler de vous sur Radio Immo dans mon émission. Merci Pierre et à bientôt sur nos antennes.
Merci Myriam, à bientôt.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur